Bonsoir Claire Servageon.
Bah oui, on espère qu'il y a encore quelques auditeurs. Merci Charline. Un bon week-end et à lundi. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France, en compagnie du politologue Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Ce sera bien évidemment l'occasion de faire le point à l'avant-veille des régionales et des départementales. À 19h, le journal de Charlotte Piret. À 19h20, au téléphone sonne, nous serons avec le patron et cofondateur du guide du routard, Philippe Glouhagen. Vous pourrez lui poser toutes vos questions et lui raconter vos souvenirs de voyage. Alors n'hésitez pas à appeler le 01 45 24 7000. Le standard est déjà ouvert. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Maria Melkurdi.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. 6 mois après la disparition de l'infirmière Delphine Jubilard dans le Tarn, son mari Cédric Jubilard mis en examen pour meurtre aggravé et placé en détention. Précision dans un instant. Après de gros orages dans le sud-ouest de la France, plus de 10 000 foyers privés d'électricité en Occitanie à la mi-journée, des gaz importants à certains endroits, nous irons dans un hameau du Périgord. Dans ce journal, nous irons également à Téhéran suivre l'élection présidentielle en Iran. Un grand favori, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. Enfin, duel de choc ce soir à Londres, dans l'Euro de football Angleterre-Écosse, c'est dans 3 heures, avec des supporters écossais qui n'en font qu'à leur tête.
France Inter.
6 mois après la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn, une grande avancée dans l'enquête.
Oui, son mari, Cédric Jubilard, vient d'être mis en examen pour meurtre aggravé. Il a été placé en détention. L'homme de 33 ans avait été placé en garde à vue mercredi dans les locaux de la police de Gaillac, dans le Tarn. L'infirmière et mère de 2 enfants avaient disparu dans la soirée du 15 décembre dernier. Le procureur de la République de Toulouse vient de donner une conférence de presse. Le suspect nie les faits. Bonsoir, Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Mais les enquêteurs ont mis en évidence un certain nombre de contradictions.
Il y a d'abord le contexte, une séparation bien plus conflictuelle que Cédric Jubilard n'a voulu l'admettre au départ. Les témoignages recueillis évoquent de fréquentes disputes et un homme qui pouvait se montrer brutal. D'autres éléments ont interpellé les enquêteurs dès le départ. Le 16 décembre, Cédric Jubilard appelle les gendarmes à 4h du matin, 16 minutes seulement après s'être rendu compte de l'absence de son épouse, selon ses dires. Le podomètre de son téléphone portable indique qu'il n'a fait que 40 pas, c'est peu pour des recherches. Et puis, il y a le comportement du suspect à l'arrivée des gendarmes, explique le procureur de Toulouse, Dominique Alzéari.
Ça se situe dans une habitation dont l'état d'entretien est extrêmement négligé. Lorsque les gendarmes arrivent vers 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Mme Jubilard.
Il y a également la voiture de Delphine Jubilard qui n'était pas garée comme à son habitude. Les témoignages de 2 voisines qui à 23h ont entendu des cris stridents en provenance de la maison. Autant d'éléments donc qui ont conduit à la mise en examen de Cédric Jubilard et à son placement en détention provisoire.
Merci Laurélie Carrive. Nordal-Lelandais va comparaître du 31 janvier au 11 février 2022 devant les assises de l'Isère pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans. L'enfant avait disparu lors d'une soirée de mariage en août 2017 à Pont de Beauvoisin. L'ancien maître chien militaire a déjà été condamné à Chambéry à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer. Plusieurs dizaines de livreurs manifestent depuis cet après-midi à Paris pour dénoncer la banalisation des agressions racistes. Il y a eu récemment celle de Laval ou encore de Cergy. Manifestation place de la République encore ce soir parmi les messages scandés. Aux livreurs, respect, beaucoup sont d'origine africaine. Avoir la peau blanche ou noire n'est pas reconnu de la même façon dans les systèmes de reconnaissance faciale. Une classification existe depuis les années 70, la classification Fitzpatrick Skin Type. FST classe les individus en 6 prototypes, dont 4 pour les peaux blanches, 1 pour les peaux noires, 1 pour les peaux marrons. Les détracteurs du FST estiment que la diversité des personnes de couleur n'est pas suffisamment prise en compte. Bonsoir Béatrice Duguet.
Bonsoir.
La technologie s'empare du débat et trouve des solutions. Elle vient de Google qui travaille à une alternative.
Oui, parce qu'à la base, la classification de Fitzpatrick sert de norme aux dermatologues. 4 types de peau blanche, vous l'avez dit, mais une seule de latino et une seule de type africain. Ces phototypes caractérisent les sensibilités aux UV. Ils ont donc d'abord été utilisés par les industriels pour fabriquer des protections solaires, logique. Mais ces dernières années, les groupes technologiques y ont recours dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment pour nourrir les systèmes de reconnaissance faciale, pour concevoir aussi des capteurs de fréquence cardiaque. Or, la classification montre beaucoup de limites, pas assez de diversité, de phototypes pour les personnes de couleur. Les expériences de reconnaissance faciale sont médiocres, par exemple, pas assez précises. Mais Google indique également que les caméras de certains téléphones capables de mesurer le pouls cardiaque des utilisateurs génèrent des erreurs en fonction de la couleur de la peau de la personne, claire ou foncée. En fait, le secteur de la technologie réalise aussi que le blanc est sa couleur dominante et que dans la recherche, ces personnes étalons, si je puis dire, sont majoritairement blanches. Google communique donc aujourd'hui sur son intention d'inclure plus de personnes de couleur dans le développement de ces produits.
Merci Béatrice Duguay pour France Inter. Combien de vies humaines auraient pu être sauvées si le gouvernement avait confiné les Français début février, comme le conseillaient les scientifiques ? La question peut paraître anachronique en cette période de liberté retrouvée en quelque sorte et de décrue de l'épidémie. C'est la question que se pose le journal Le Monde ce soir. D'après les estimations du quotidien, ce confinement tardif en avril aurait entraîné 14 600 décès de plus. Faut-il rendre obligatoire la vaccination des soignants d'ici à la fin de l'été ? Le gouvernement semble se poser sérieusement la question. Menace brandie par le ministre de la Santé, Olivier Véran. D'après Santé publique France, 81% des résidents en EHPAD sont complètement vaccinés, contre à peine 42% des professionnels de santé qui y travaillent. Après les fortes chaleurs, les violents orages se sont abattus sur le sud-ouest de la France hier. Dans le Périgord, les habitants du hameau de Véry ont constaté ce matin les conséquences d'une mini-tornade. La zone dévastée est petite, certes, quelques centaines de mètres de diamètre, mais les dégâts sont impressionnants. Arbres arrachés, toitures envolées, des habitants sains et saufs, mais très choqués. Reportage à Rissago.
Florent et Agathe Théry ont eu peur quand la tornade est arrivée. Leurs enfants étaient à l'étage de la maison.
En l'espace de 10-20 secondes, tout a été emporté. Moi, je suis rentré du boulot vers 18h15. À peine rentré, on a senti le toit, les tuiles qui s'envolaient, tout tournait autour de la maison. Je suis allé voir dans la véranda s'est soulevée. On a crié parce qu'on a trois enfants à la maison qui descendent, ils étaient en haut. Voilà, ça volait partout, dans tous les sens. C'était la panique. Une grosse, grosse frayeur.
Bah là, nous, on a plus derrière. Il y a un chêne de 200 ans qui est couché. Catastrophe.
Et ce matin, un expert est déjà arrivé de Gardonne pour proposer ses services. Guillaume Vergnol a vu d'énormes tempêtes, mais là, le périmètre est tout petit.
C'est le propre des tornades, c'est un couloir, c'est comme la grêle. Ça fait des couloirs de 40, 50, 60 mètres. Et autour, vous n'avez pas de dégâts. Et sur le couloir, c'est ravagé en totalité. C'est garanti, c'est ce qu'on appelle la garantie tempête ou catastrophe naturelle. C'est garanti, il n'y a pas de souci. Les assurés seront indemnisés.
Des nouvelles rassurantes qui ne rendront pas à Florent Théry l'ancêtre de son jardin.
Quand on voit un chêne de 200 ans s'envoler comme ça, se coucher, c'est deux siècles, il tombe en 30 secondes, c'est inimaginable.
Reportage Arissago de France Bleu Périgord pour France Inter. Le temps sera toujours orageux dans le sud-ouest du pays selon Météo France. Météo complète en fin de journal. C'est une énergie qui n'a pas vraiment le vent en poupe, sauf chez les écologistes, les éoliennes. Le Sénat a voté contre l'avis de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Les sénateurs majoritairement à droite se sont prononcés pour le principe d'un droit de veto des maires sur l'implantation des éoliennes dans leurs communes. Ils ont adopté un amendement en ce sens lors de l'examen en première lecture du projet de loi Climat et Résilience. Le débat sur les éoliennes, c'est l'invité surprise de cette fin de campagne des régionales. La présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, par exemple, demande un moratoire sur les nouvelles constructions. Les candidats aux régionales n'ont plus que quelques heures pour convaincre. Dernier jour de campagne pour les régionales, les départementales. Nous y reviendrons dans le journal de 19h. Premier tour du scrutin dimanche. Et à noter que dimanche soir, soirée spéciale sur Inter, dès 19h jusqu'à 22h, ce sera avec vous d'ailleurs, Claire Servage. Il y aura également un journal spécial élection à 23h.
Voilà, et puis je vous rappelle que Brice Teinturier, le politologue, sera avec nous juste après ce journal, justement. À l'étranger, Mariam, une élection sans grande surprise en Iran.
Oui, les Iraniens appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Le scrutin semble jouer d'avance. Le grand favori pour succéder à Rouhani, c'est le candidat ultra-conservateur, Ebrahim Raisi, 60 ans, actuel chef de l'autorité judiciaire. Les autorités ont invalidé les candidatures de tous les réformateurs, y compris le conservateur dit modéré Ali Larijani. Et la grande inconnue, c'est la participation qui s'annonce assez faible ce soir, Franck Madvon.
Oui, le ministère de l'Intérieur publie les chiffres de participation au fil de la journée. 20 millions d'Iraniens avaient voté à 20h, il y a une grosse demi-heure, heure locale bien sûr, c'est environ un tiers du corps électoral. Certes, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à minuit, voire 2h du matin si nécessaire, mais il ne fait aucun doute que l'abstention sera très élevée. Il y a 4 ans, plus de 73% des Iraniens s'étaient déplacés aux urnes pour réélire le modéré Hassan Rouhani, un homme du Sérail bien sûr, mais un partisan de l'ouverture vers l'Occident. On sera loin de ce taux de participation. On l'a vu aujourd'hui dans les bureaux de vote, seuls les conservateurs étaient vraiment mobilisés. On a eu beaucoup de mal à trouver des électeurs du seul candidat réformateur en lice, Abdel Nasser Emati, méconnu. Sauf énorme surprise, il ne parviendra pas à pousser le favori Ebrahim Raisi au second tour. Beaucoup d'Iraniens voient dans cette élection une mascarade. Ceux-là, bien souvent, ne votent pas. Et ce n'est pas la pandémie qui les inquiète, comme le suggère le gouvernement, mais bien l'absence de choix. Le résultat de l'élection doit être connu demain matin. Et si Raisi est bien le nouveau président, on regardera donc de près les chiffres de l'abstention pour mesurer sa légitimité.
Merci Franck Madvon en direct de Téhéran.
En sport, une rencontre fratricide ce soir.
Oui, duel de choc dans l'Euro de football Angleterre-Écosse à Wembley. Le coup d'envoi est à 21h. Les deux membres du Royaume-Uni ne s'apprécient pas vraiment. Leur rivalité est tout aussi sportive que politique. Et les Écossais ont décidé de se déplacer en masse alors qu'il leur avait été recommandé de ne pas le faire. Richard Place l'a constaté dans les rues de Londres, reportage.
L'hymne écossais résonne un peu partout dans la capitale anglaise. Francis le chante avec ses amis, il fait partie de la Tartan Army. C'est comme ça que les supporters écossais se surnomment, du nom du tartan, le tissu à carreaux typique. Comme le kilt de Francis, il porte aussi un béret et évidemment le maillot de son équipe.
On vient juste d'arriver effectivement. On n'ira pas au stade, on n'a pas réussi à avoir des billets, mais on va essayer de trouver un pub dans le coin pour regarder le match. L'équipe a besoin de notre soutien, alors on est ici et on la supporte.
Absolument inoffensifs, ils sont pourtant le cauchemar des autorités. Le maire de Londres avait clairement demandé de ne pas faire le déplacement sans billets pour le stade. Moins de 3000 tickets pour l'Écosse et on estime à 20 000 aujourd'hui les supporters qui déambulent dans la capitale anglaise. Parmi eux, Yuan.
C'était vraiment pas clair, franchement. Il y a deux semaines, on était les bienvenus pour voir le match au stade, dans un pub, peu importe. Et entre-temps, ça change. Mais nous, on a réservé notre voyage, des appartements, des hôtels. Notre argent, ils ne le refusent pas. On a bien boosté l'économie londonienne.
Pas de masque, pas de distance de sécurité, beaucoup d'alcool, exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un pays où le variant indien se propage déjà à grande vitesse. Londres, Richard Place, France Inter.
Merci Richard Place. Autre match à suivre dans cet Euro de foot. La Suède s'est imposée 1-0 d'abord face à la Slovaquie. Puis en ce moment, la Croatie affronte la République tchèque. Alors qu'on commence à faire tomber le masque à l'extérieur, les comédiens savourent eux la joie de retrouver certaines scènes de tournage. Pas toujours simple en ces temps de Covid. Les productions audiovisuelles ont dû s'adapter depuis plus d'un an à des mesures sanitaires très contraignantes. C'est le cas notamment du feuilleton quotidien de France 2, un si grand soleil qui réunit chaque soir plus de 4 millions de téléspectateurs après le journal de 20h. Il nous a ouvert ses portes dans la région de Montpellier où a lieu le tournage. C'est un reportage signé Alexandra Hakoun.
Depuis des mois, c'est la même routine. À peine arrivé à Montpellier, comédiens, techniciens, tous doivent se faire tester. Condition sine qua non pour mettre un pied sur le plateau d'un si grand soleil à laquelle Albin Omar, alias Gary dans la série, se prête volontiers.
Je sors du train, je vais tourner demain. Le test, ça fait 6 mois pratiquement, parce qu'on est comme nombreux.
Et sur le tournage, en revanche, masque ?
Ah, masque, oui. Ouais, ouais. Là, tous les techniciens ont les masques. Et les comédiens, on a le masque pendant les répètes, même après le maquillage. C'est contraignant, mais on a la chance de tourner. Et ça, c'est précieux, quoi.
Un si grand soleil a même été l'une des toutes premières productions françaises à reprendre l'an dernier, après 2 mois de pause forcée et la réécriture de bon nombre d'épisodes.
On a décidé de faire un travail aussi d'éditorialisation autour des épisodes déjà existants.
Thomas Desmatteis, producteur d'Un si grand soleil.
On a dû s'adapter, la série n'a pas exactement l'esthétique qu'elle avait avant, ça a un petit peu bougé pour un certain nombre de raisons liées justement à des dispositifs techniques.
Il n'y a plus de bisous ?
Il y a beaucoup moins de bisous, mais ça reviendra.
Transmettre avec un masque sur la bouche, pas évident. Chloé Micou, réalisatrice, a dû apprendre à s'y faire.
Alors qu'avant, j'avais tendance à faire juste une petite tête. tête, genre c'est bien. Maintenant, je verbalise pour que ça soit compris, quoi.
En espérant que tout cela ne sera rapidement plus qu'un mauvais souvenir.
Un reportage signé Alexandra Hakoun. Reportage à retrouver en longueur demain matin dans Coulisses. Ce sera à 8h05.
C'est noté. Merci beaucoup, Mariamel Curdi. Dans un instant, on va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
On n'en a pas terminé avec les orages.
Oui, effectivement, de nouvelles cellules orageuses vont remonter la nuit prochaine vers le Pays Basque, les Landes et les Charentes, pour gagner au petit matin la Bretagne. Et puis ces orages vont progresser en cours de matinée vers le Limousin et la région centre. On les attend avant la fin de l'après-midi entre le Massif central, l'Île-de-France et la Normandie, pour toucher en soirée la Bourgogne, la région Champagne-Ardenne et le Nord-Pas-de-Calais. Et attention, ces orages seront parfois violents, accompagnés de fortes pluies, de grêles et de fortes rafales de vent. En attendant ces orages, vous profiterez tout de même d'une pause ensoleillée. Le soleil résistera toute la journée entre la Corse et la région PACA et de la région Rhône-Alpes à l'Alsace en passant par la Franche-Comté. Mais des averses orageuses vont se développer par évolution d'urne sur les différents massifs de l'Est.
Un petit mot des températures ?
Eh bien, les températures maximales vont évoluer entre 19 et 24 degrés près des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Comptez 26 à 35 ailleurs, avec 26 à Lille, 29 dans la capitale, 32 à Nancy. Prévoyez 34 à Strasbourg et Marseille, et puis on ira jusqu'à 35 degrés à Lyon.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.